Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Dans une heure, à la fin de cette émission, vous saurez à la fois quoi lire et quoi écouter. Vous pourrez même, si vous êtes multitâche, lire en écoutant ou écouter en lisant, tant nos deux invités sont audio compatibles. Ma première est belge, comme notre regretté Johnny. Elle s'appelle Dieudonné, prénom Adeline. Adeline qui fut le prénom d'une des épouses de Johnny. Et s'il est une consolation au fait que Johnny ne soit plus de ce monde, elle réside dans le frisson rétrospectif que l'on ressent en imaginant le terrifiant quiproquo que n'aurait pas manqué de provoquer l'idole des jeunes en annonçant, deux points, ouvrez les guillemets, « Adeli et Dieudonné ». Non, aucun rapport. Adeline Dieudonné est primo-romancière, comme on dit de manière assez barbare. Entendez par là qu'elle publie son premier roman et que ce roman-là est un enchantement qui vous emballera comme il nous a emballé ici. Et si vous suivez la prescription du docteur Antoine, dit 33, et que vous l'entreprenez, le roman, pas Adeline, au son de 33, justement, le titre du nouvel album d'un pianiste aussi allumé que virtuose Simon Gréchy, alors je vous annonce quelques heures de bonheur dont petit 1, vous me direz des nouvelles, et petit 2, dont vous me serez redevable jusqu'à la fin des temps qui, je vous rassure, ne saurait guère tarder. Bref, un programme du tonnerre et on attaque avec le roman.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio. À mes côtés, l'infirmière en chef de ce pop cabinet, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour Adeline.
Bonjour Charline. Cachez-moi cette seringue. Mais avant ça, Adeline Dieudonné, ici, il existe une question. Une question encore plus crispante que... Vous avez un rapport avec Dieudonné, Délié Dieudonné ? Et cette question, c'est... Pour vous, Adeline, c'est quoi la pop culture ? Ah, alors attendez, parce que pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre pianiste pop, Chilly Gonzalez. Écoutez.
Ça vient du mot populaire. Mais après, on tombe dans un truc. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le choix du public quand ils ont des goûts différents que nous? Et c'est ça la question. Je peux pas vraiment la répondre à part dire que la pop musique devrait être une méritocratie.
Ça laisse des portes ouvertes. C'est quoi donc pour vous, Adeline Dieudonné, la pop culture?
La pop culture, bah, c'est retour vers le futur. C'est
dont il est largement
question, dans le livre, absolument. Non, pour moi, c'est beaucoup les années 80 et les années 90, même si j'ai envie de dire les années 90, parce que voilà, j'ai pris le Thalys ce matin. Et ouais. Donc, les années 80 et 90, et avec tous ces petits objets qui faisaient notre quotidien et donc moi je me suis fait un vrai plaisir de parler dans le livre, de pouvoir parler de la Game Boy, du Walkman, voilà, de ces choses-là qu'on...
Donc en fait c'est une culture, des objets liés à vous, à l'époque que vous avez connue.
Oui, peut-être bien, à mon enfance, à mon adolescence, oui.
Très bien, ça me semble être une définition tout à fait recevable. Vous, Charline?
Ah oui, j'opine, okay, tout à fait, c'est validé.
J'espère que vous allez continuer à opiner pendant toute l'émission. La pop culture, je vais vous en prescrire jusqu'à 17h. Et avant d'écouter tout à l'heure du piano, écoutons le rap d'Anderson .Paak et de Snoop Dogg avec Anywhere.
Let me get that intro. Blunts, gators, hand me my mink. On the east, ducking fast from a peephole. 1989, gang banging was at its peak. This the beat that make me reminisce on G-Phone. Three summers before the chronic hit the streets. I would rather sling hand to hand to a fiend. Rapping on the side, trapping was priority. But every now and then, I go scoop my little thing. Pull up in my MC, banging new jack swing. Ooh, summertime time back in Long Beach. Passing one bottle, 40 ounce OE. I didn't have a dollar, but a nigga had a dream. Whipping over the stove and a nigga gotta eat. Threw my raps in the garbage, fuck being an MC. Thank the Lord for Nate Dogg and thank God for Warren G. Funny how time flies when you're high as me.
I think I'm in the rough ends now. I seen her throwing up edge down. You was living off a true hill. Wasn't ready for the world, but baby, who is? Know you readier than all the elder bodges. Never worry about the total of the charges.
I got this.
And if you need an escape for now, meet up at room 112. We do it anywhere.
We can do it.
Yeah. And if you feel it,
if you need a
Anywhere, c'est un morceau signé Anderson .Paak avec Snoop Dogg. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une primo-romancière, comme je le disais en début d'émission, de manière assez barbare, hein, mais il y a tellement plus de choses à dire. La preuve, avec son pop-portrait. Alors, votre pop-portrait, Adeline, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop-pop-pop-pop.
Et il est signé Charline...
Ça tombe bien. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Alors voilà le genre de chanson dont on se dit que notre invité pourrait y apporter quelques précisions. Déjà, le bois, s'agirait d'en connaître la topographie. Par exemple, l'auteur ici présente ne vit pas loin d'une forêt jouxtée par l'étang dit des enfants noyés. Ça ne s'invente pas. Et après, même si le loup est off, ce serait quand même pas mal de se rencarder pour savoir par qui il est fréquenté, le bois. Parce que le garou, rapport au roman d'Adeline Dieudonné, c'est du pipi de canidé. Hein. Amateur de nature bienveillante et famille aimante, passez votre chemin. Et si vous aimez les petits plaisirs de l'enfance, de type vrai roux-doudou qui coupe les lèvres et nique les dents, ou les glaces du camion, réécoutez Renaud, sinon vous risquez de mal digérer votre chantilly. Pour les autres, régalez-vous d'un récit enfantin qui a perdu toute son innocence, un thriller familial et animalier, bref, pas mal d'oxymores et éléments contrastés nés sous la plume d'une femme ayant tâté de la comédie, de la déco et même du linge de maison pour être finalement être édité par l'iconoclaste, ce qui somme toute semble assez logique, avant d'être couronné par le Renaudot des lycéens pour ce premier roman qu'elle est venue nous présenter. Alors pendant une heure, promenons-nous dans les bois, oui, mais alors en restant groupé et prudent avec Adeline Dieudonné. Ça m'angoisse
bois.
Maintenant d'entendre cette chanson.
Angoisse. Vous êtes d'accord pour venir vous promener dans nos bois, Adeline ?
Avec grand plaisir, j'adore me promener dans les bois.
Bien, alors avant d'aller nous promener dans les bois, allons nous promener sur la planète pop, car c'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé, Adeline Dieudonné, de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur un autre livre conseillé à un lectorat plus amateur de sensations fortes et de tentations émotionnelles que les livres de Marc Lévy, Misery de Stephen King, paru en 1987. Charline, les sensations fortes, ça vous connaît ? Résumez-nous ça.
Paul Sheldon écrit des best-sellers, Les aventures de Misery Chastain. Après un grave accident, il est recueilli par l'une de ses admiratrices, Annie Wilkes, plutôt du genre timbré. Elle découvre que Sheldon a tué son personnage favori dans son nouveau livre et décide de le pousser à la ressusciter en employant des moyens extrêmes, hashtag coup de hache.
Adeline, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Ah, mais avec grand plaisir.
Pour vous mettre dans l'ambiance.
Il se laissait aller dans le fauteuil, tremblant de tout son corps, s'efforçant d'arrêter de trembler parce que ça lui faisait mal et incapable d'y arriver. Des larmes lui coulaient le long des joues. Il ne cessait de la revoir qui abattait le poing sur ce qui restait de son genou comme un ivrogne abat le sien sur le comptoir de chêne d'un bar. Il ne cessait de se sentir englouti dans la terrible supernova blanc-bleu de la douleur. « Je vous en prie, mon Dieu, je vous en supplie, » gémit-il, tandis qu'à l'extérieur, la Cherokee démarrait dans une pétarade. « Mon Dieu, je vous en supplie. » Faites-moi sortir d'ici ou tuez-moi. Laissez-moi sortir d'ici ou tuez-moi.
Stephen King, Misery. Alors pourquoi ce Stephen King-là en particulier, Adeline ?
J'aurais pu en citer d'autres. Mais c'est vrai que c'est pratiquement mon préféré. J'y dis pratiquement parce qu'il y a aussi La petite fille qui aimait Tom Gordon. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Il est incroyable ce livre. C'est tendu à mort. Enfin, moi, je ne l'ai pas lâché du début à la fin. C'est terrible. Il y a une violence extrême et je trouve que la violence est même pas forcément... Les scènes les plus insoutenables ne sont pas celles qu'on croit. Donc, on parle toujours de la scène de la hache, effectivement. Mais je trouve qu'il y a des scènes bien plus violentes quand elle lui fait boire l'eau de... Elle a nettoyé le mur sur lequel elle avait renversé la nourriture de Paul Sheldon. Et elle nettoie et puis elle lui fait boire l'eau avec laquelle elle a nettoyé. Je trouve ça d'une violence atroce. Il y a un suspense incroyable. Et puis effectivement, il y a toute la réflexion sur le métier d'écrivain qui est très, très intéressante. Comment les lecteurs s'approprient à un moment ce qu'on écrit et quelles attentes ils placent en nous. Donc voilà, je suis peut-être un peu dans ces angoisses-là pour l'instant. Donc.
Vous imaginez vous-même, par exemple, prisonnière d'un de vos admirateurs un jour?
Pour l'instant,
vous proposez,
sont cool.
Antoine
oui, c'est ça. Pour l'instant, ils sont cool, mais c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui ont des regards bizarres dans les foires du livre. De temps en temps, il y en a certains, je me dis, ouf, j'ai pas envie de le croiser,
des
justement, au coin d'un bois. Voilà, c'est ça.
Bien, pour le film, vous avez choisi Fargo des frères Coen, sorti en 96. Adeline, vous êtes ici au siège du fan club français des frères Coen. Alors, avant que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi Fargo, Charline va rappeler aux auditeurs qui seraient plus familiers avec l'œuvre de Benoît Jacquot, par exemple, de quoi il s'agit.
Il s'agit d'une flic très enceinte qui enquête sur des homicides routiers, des homicides qui l'amènent sur la piste d'un directeur de concession automobile très très désespéré qui a engagé deux gros criminels pour enlever sa femme.
No, they said no cops.
Here's the second one. So we got a trooper pull someone over.
This a new car then, sir?
There's a high speed pursuit. We got a shooting and then this execution type deal.
$1 million is a lot of damn money.
They got my daughter.
Got your damn money. Now where's my daughter?
Police!
So, is there anything else you can tell me about him? He wasn't circumcised.
Oh yeah?
Adeline Dieudonné, vous faites partie du fan club belge des frères Coen?
Absolument, oui. Complètement.
Alors pourquoi ce Fargo?
Parce que je trouve qu'il y a tout dans ce film. Il y a tout. Il y a une atmosphère qui est incroyable. Il y a de l'humour et du suspense aussi. Enfin, ils arrivent à faire un mélange qui est très improbable. Et ils mettent des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. C'est vraiment comme des cuistots. Tout à coup, on se dit mais ils ont réussi à mettre des asperges avec du chocolat blanc et c'est bon. C'est super bon. Et voilà. Je trouve que les frères Coen ont cette magie de distordre le réel, d'en faire quelque chose de... On est à la fois dans quelque chose d'extrêmement réaliste et dans une violence qui est assez quotidienne, et en même temps c'est complètement barré, ils s'interdisent rien, j'ai une admiration pour eux assez incroyable.
J'ai l'impression que vous parlez de votre livre quand je vous entends là.
Ah ouais, c'est génial, je vous remercie.
Je vous en prie, attendez, c'est pas fini avec les compliments. Pour la série télé Adeline Dieudonné, vous avez choisi Breaking Bad créée par Vince Gilligan, diffusée entre 2008 et 2013, une série souvent cité dans les playlists de nos invités, mais vous allez voir, Adeline, Charline a réussi à nous dégoter une information inédite. Enfin, j'espère.
Ouais, croisez les doigts. La production et le diffuseur étaient moyen chaud à la base pour embaucher Bryan Cranston, qu'on avait auparavant beaucoup vu dans des comédies. Des comédiens comme John Cusack et Matthew Broderick ont été approchés. Et comme ils ont refusé, grand bien leur a pris, Gilligan a pu embaucher son premier choix, soit Bryan Cranston.
La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui. Cancer du poumon. Inopérable.
Pourquoi vous êtes là?
Tu connais le business. Et je connais la chimie.
Dites-moi pourquoi vous faites ça. Allez, sérieux.
Je me suis réveillé.
Breaking Bad, créé par Vince Gilligan, avec donc Bryan Cranston, qui aurait pu ne pas être l'acteur choisi, vous saviez ça?
Non, je ne savais pas, et alors j'ai vraiment du mal à imaginer John Cusack ou Matthew Broderick dans ce rôle.
Mais surtout à rebours, Cranston dedans, c'est impossible en fait.
Oui, il est incroyable ce personnage, est juste complètement dingue. Non, je suis fan de cette série. Bon, oui, j'imagine bien que voilà, je suis pas la seule à donner cette réponse-là. Mais c'est vrai qu'ils ont mis la barre très très haut avec Breaking Bad, parce que J'adore. Déjà, le début, où on le comprend tellement. On se dit, si non, ne va pas par là. Et en même temps, ben, on comprend la situation désespérée dans laquelle il est. Et c'est horrible. Le malaise des premiers épisodes, quand ils doivent dissoudre ce corps-là dans la baignoire. Enfin, quand il doit choisir s'il doit tuer ce gars dans la cave ou pas. Enfin, c'est des dilemmes horribles et des choix qu'on n'aimerait pas faire. Et je trouve qu'il y a une super... Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé à propos de cette série, mais je trouve qu'il y a quand même une super dénonciation du système de santé américain. Mm-hmm. Un mec atteint du cancer du poumon se retrouve quand même obligé à devoir faire du crystal meth pour laisser quelque chose à sa famille et permettre à son fils de faire des études. C'est quand même dingue, quoi.
Absolutely. Absolutely, c'est de l'anglais puisqu'on parle d'une série américaine.
Vous êtes bilingue.
Mais je suis bilingue, et même si la bande-annonce était française. Bien, qu'est-ce qui me manque dans ma pop-list ? On a un film, on a un livre, on a une série. Bah oui, évidemment, une chanson. Et votre chanson culte, eh bien, Adeline Dieudonné, c'est celle-ci.
Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas.
Lorelai Sebastocha de Tiefen, sorti en 82 sur l'album Soleil cherche futur. Pourquoi cette chanson ? Pourquoi cette passion ?
J'en profite que je suis là pour faire une petite annonce. J'aimerais faire l'acquisition du cerveau de Hubert Félix Tiefen. Et si je pouvais me le faire greffer, ce serait... Ce monsieur a un talent, oui, je trouve absolument incroyable. Et je l'ai choisi aussi parce que j'écris en musique. Mm-hmm. J'ai beaucoup parlé effectivement du métal, j'écris beaucoup sur du métal, mais aussi sur du Hubert Félix Tiefen, notamment le Relay est dans ma playlist. Cette chanson est parfaite, il y a une atmosphère incroyable, il arrive à avec une économie de mots incroyable, à raconter une histoire qui est tout à fait compréhensible. Contrairement à d'autres chansons que j'adore aussi, mais par exemple Alligator 427, je ne sais pas de quoi il parle. Mm-hmm. Je sais que c'est magnifique, je sais que je l'adore, mais je comprends pas de quoi il parle. Alors que dans Lorelai, c'est splendide, et la tendresse de cette relation entre ce gars et cette prostituée, c'est juste incroyable. Et il a une richesse de vocabulaire qui me bouleverse. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a eu un peu de contagion, parce que en relisant La Vraie Vie, je me rends compte qu'il y a pas mal du champ lexical de Tiefen qui est passé dans La Vraie Vie. Donc à force de l'écouter en écrivant...
Et du métal aussi ?
Et plutôt la violence du métal, oui.
Très bien, alors je résume Misery, Fargo, Breaking Bad, Hubert Félix Tiefen. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
Lorelai, Lorelai, I got my daughter.
We got a shooting.
Pourquoi vous êtes là ?
Mon Dieu, je vous en supplie, faites-moi sortir d'ici ou tuez-moi. Laissez-moi sortir d'ici ou tuez-moi.
Je me suis réveillé.
Je suis comme un cobaye qui a sniffé toute sa part.
No, they said no cops.
Il est mort.
So, is there anything else you can tell me about him? He wasn't circumcised. Oh yeah?
Intéressant ce qu'on trouve dans ce remix.
Pas mal.
C'est vous ? Une partie de vous ?
Peut-être bien, et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de La Vraie Vie là-dedans, effectivement. Ouais.
La Vraie Vie, le titre de votre premier roman, nous allons parler dans quelques instants. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop, mais ce sera juste après les Beastie Boys et le morceau Make Some Noise.
Yes, here we go again, give you more, nothing lesser. Back on the mic is the antidepressor. Hell rock, no pressure, yes we need this. The best is yet to come in, yes believe this. Let go my echo, I affect my EO. Sip off a Prosecco, dressed up tuxedos. In my coffin playing Keno, in the casino. Want a lucky number, ask
Make some noise des Beastie Boys et ils ont mis leur menace à exécution. Nous sommes toujours en compagnie d'Adeline Dieudonné. Adeline Dieudonné, on vous reçoit pour La Vraie Vie, votre premier roman. Alors j'ai fait part de mon emballement en ouvrant cette émission. Je le répète ici, je suis sorti remonté comme un coucou. C'est une expression française. De sa lecture, c'est un conte sombre,
moderne surtout.
Sombre, poétique, bizarre, où la flamboyance de l'imaginaire console de la noirceur de la vraie vie. La Vraie Vie, c'est votre vraie vie à vous, elle mérite qu'on en dise deux mots. C'est un long chemin qui vous a amené à l'écriture. Vous avez été comédienne, vous avez fait de la déco, vous avez été assistante de production. Et puis, passé la trentaine, vous êtes décidé à écrire une nouvelle, un spectacle. Et puis, La Vraie Vie. Comment s'est opérée la bascule entre La Vraie Vie et l'écriture?
Alors, c'est venu d'une espèce de crise existentielle de la trentaine. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je bossais comme dans un bureau d'études d'archi d'intérieur. Et je faisais les plannings, en gros, le suivi des chantiers. Et en fait, je comprenais plus très bien à quoi servait mon travail. C'était l'année des attentats de Charlie Hebdo, et ça m'a... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a secoué. Et tout à coup, j'ai pris conscience que j'avais mis au monde deux enfants dans un monde qui est franchement pas rigolo. Et je me suis dit, j'aimerais bien agir, faire un truc qui serve à quelque chose. Et donc, j'ai planté mon boulot... Mais sauf que c'est hyper difficile de se rendre utile vraiment à quelque chose. Donc pendant plusieurs mois, j'étais au chômage et j'ai essayé d'initier des projets dans le développement durable, dans l'économie circulaire. Enfin voilà, des choses dans lesquelles je croyais. Et puis ça marchait moyen. Et un matin, je me suis retrouvée dans un bar et je savais pas ce que j'allais faire de ma journée. J'étais un peu désœuvrée. Et j'ai un copain écrivain qui m'a dit Mais c'est intéressant tes réflexions et justement de là où tu parles d'une jeune trentenaire maman qui inquiète, écris, pourquoi t'en fais pas quelque chose. Et comme j'avais rien de mieux à foutre ce jour-là, j'ai commencé à écrire Bonobo Moussaka, qui est mon seul en scène de théâtre. Et puis une fois que j'ai fini d'écrire Bonobo, j'ai plus envie de m'arrêter et j'ai commencé à écrire une nouvelle et puis une deuxième. Et puis on m'a dit, mais les nouvelles, ça n'intéresse pas les éditeurs, donc écris un roman. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai écrit La Vraie Vie.
Et du coup, l'écriture, c'est La Vraie Vie.
Ah oui, moi ça a été salvateur. Clairement, j'ai trouvé un endroit où je pouvais me retrancher et échapper un peu à cette angoisse. J'ai pas forcément atteint mon objectif parce que je me sens pas forcément plus utile à cet endroit-là qu'en vendant des tapis et des coussins. Quoique, Mais c'est vrai que ça a au moins pu me sauver moi. Et puis je me dis pourquoi pas. Je crois assez en la force de la fiction. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à faire une œuvre qui réveillera les foules, qui fera que les gens se sortiront de là en se disant mais oui, mais évidemment, roulons à vélo, respectons notre prochain et soyons gentils.
Alors ce qui n'est pas encore le cas. Cette œuvre peut sauver beaucoup de monde. On la lit pas en se disant après tiens je vais rouler à vélo.
Non, pas tout de suite, surtout pas dans les bois. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de provocation à nommer un premier roman « La vraie vie » Surtout que les questions récurrentes quand il s'agit de premier roman, c'est « Est-ce que c'est autobiographique ?»
Ouais, en tout cas, je ne sais pas s'il y a de la provoque, mais c'est vrai que j'aimais bien le côté enfantin, le côté naïf de ce titre. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la directrice de ma maison d'édition, Sophie de Civry. Parce que dans page 17, la petite fille dit à son petit frère, les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur. Mmh. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et elle a entouré, elle a mis dans la marge titre, point d'interrogation. Mmh. Et j'ai trouvé ça génial, parce que moi, je me prenais la tête à essayer de trouver un truc super intello, qu'elle me valoir plein de beaux articles de presse. Et en fait, non, c'est
que vous avez eu quand même.
Que j'ai eu quand même, ceci dit.
La vraie vie, c'est l'histoire d'une gamine de 10 ans, la narratrice, qui se console de la terrifiante vie de famille qui est la sienne et d'un drame fondateur lié à de la crème chantilly, j'en dis pas plus, en s'inventant un monde parallèle qui va la protéger du réel. Il y a une dimension magique dans cette histoire qui relève très directement du conte, un ogre, des enfants terrorisés, une voisine un peu sorcière, un possible prince charmant tout en muscles. Vous avez pensé à ces archétypes en écrivant ou pas ?
Pas du tout. Pas du tout, mais effectivement, je crois que j'en suis complètement imprégnée. Parce que c'est vrai qu'a posteriori, c'est rigolo de constater qu'effectivement, il y a tous les ingrédients du conte. Mais non, j'y ai pas pensé du tout. Maintenant, c'est vrai que j'écrivais une histoire du point de vue d'une gamine de 10 ans. Donc forcément, il allait y avoir une espèce d'exagération du réel. Et c'est vrai que ça pouvait donner des personnages comme ça, peut-être plus archétypaux et qui rappellent. Mais c'est vrai qu'ils y sont tous, quoi. La sorcière qui pourrait être une fée, effectivement, le champion, le prince charmant. Enfin voilà, ils sont tous là.
Cette héroïne n'a pas de nom. On la suit donc à l'âge de toutes les métamorphoses et de toutes les incertitudes, soit l'adolescence. Des doutes accentués chez elle par une famille qu'on qualifiera pudiquement d'aggravante. Pourquoi avoir choisi de faire parler une fille de cet âge-là ? Qu'est-ce qu'elle vous permettait de raconter différemment qu'un point de vue d'adulte ?
Ah, je sais pas du tout, et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce personnage. J'ai commencé à écrire un peu n'importe quoi. C'est comme ça que je commence à écrire. J'attends pas d'avoir une idée. C'est-à-dire, j'écris n'importe quoi, et je me laisse guider comme ça de façon presque dans une écriture automatique. Et c'est vrai qu'il y a eu l'accident qui survient la première année, qui a surgi, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ces enfants vont devenir après ça ? Et ça m'a intéressée, donc j'ai pris le point de vue de la petite fille. Mais non, c'est plutôt un peu emprisonnant, le point de vue d'un enfant, parce que au niveau de l'écriture, c'est compliqué à gérer, parce que ça veut dire que je dois rester dans quelque chose de relativement simple. En même temps, on n'est pas dans la littérature jeunesse non plus, donc c'était difficile de jauger la complexité du langage que je pouvais utiliser. Donc de temps en temps, ça m'a un petit peu desservi, parce que j'ai pas pu explorer. Il y a de temps en temps des mots que je voulais mettre et je me suis dit non, ça dans la bouche d'une gamine de 10 ans, c'est vraiment pas possible. Donc,
mais ce drame fondateur que j'évoquais à l'instant et dont on parle en ce moment, c'est la manière dont vous le traitez, c'est à la fois grotesque, cruel et comique. C'était important pour vous d'injecter du rire dans cette histoire pour que tout ça reste supportable ?
Oui, probablement, instinctivement, probablement. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'amuse, enfin, j'ai besoin de m'amuser moi-même en écrivant. Je suis mon premier public et il faut que ça m'amuse. Et c'est vrai que j'aime bien mettre de l'humour et avoir une espèce de distance comme ça par rapport à ce qui se passe. Parce que sinon, bah, effectivement, je vois pas bien l'intérêt de faire de la fiction. Et donc, c'est vrai que je l'ai traité comme ça aussi pour que ce soit amusant. Et peut-être que ça désamorce un peu l'horreur de la situation, quoi.
Et alors, d'où vous vient cette idée d'hyperprésence du règne animal dans le roman ? La mère est décrite comme une amibe, le mâle comme une hyène, le père s'adonne à la taxidermie. Qu'est-ce que c'est que cette passion très étrange ?
Alors ça, c'est omniprésent dans tout ce que j'écris. Maintenant, je peux avoir un tout petit peu de recul parce que j'ai écrit plusieurs nouvelles et les animaux sont ultra présents. Le champ lexical tourne toujours autour de l'animalité. Probablement parce que je nous vois comme des animaux. Voilà, des animaux qui ont évolue un petit peu différemment, qui essaye de se démarquer du reste du règne animal, alors qu'en réalité, bah non, on en fait partie. Et je crois que c'est pas mal de se rappeler qu'on est des animaux parmi les autres et qu'on est complètement interdépendants par rapport à eux. Et dans Bonobo Moussaka, ouais, je compare
déjà.
Il y a le bonobo, mais je compare les gens à des chiens et le fonctionnement d'un dîner de Noël. Je vois ça. Il y a le mâle dominant, il y a le mâle dominé, et toutes les mécaniques comme ça qu'on peut retrouver entre nous, qui sont en fait terriblement animales, qui nous ramènent aux temps ancestraux.
Vous parlez de votre style comme d'un travail de réécriture, hein, autant que d'écriture. Vous repassez sur vos textes beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pour en éliminer tout ce qui est superflu. Est-ce que l'écriture vous demande un travail de titan ?
Oui. Ah oui, oui, c'est dur. Et je me... Moi, avant d'être écrivain, je pensais que c'était vraiment un travail de plaisir, comme ça, qu'on se mettait le matin dans un bureau, comme ça, tout ensoleillé, avec une petite tasse de thé, et qu'on se laissait porter
par une machine à écrire.
Voilà, c'est ça, déjà à Bruxelles. Une machine à écrire et qu'on se laissait porter par une inspiration, comme ça, qui viendrait. Alors que c'est pas du tout ça. Non, la plupart du temps, c'est dur, c'est pas forcément. Alors, ça peut être ultra grisant à certains moments, et c'est vrai que je peux avoir des espèces de phases comme ça, de méga kiff d'écriture, mais globalement, c'est un travail, c'est dur, et je dois me forcer. C'est-à-dire que il faut pas que j'attende d'avoir envie d'écrire pour m'y mettre, sinon j'ai jamais un roman qui sort, quoi. C'est vraiment un truc, donc ouais, c'est difficile, il y a des moments où on a juste envie de tout balancer, Et surtout quand c'est un premier roman, parce que là, on n'a même pas l'assurance d'être publié derrière. Donc on se dit, si ça se trouve, ce que je suis en train de faire, ça va juste mourir au fond d'un tiroir. Ça n'a aucun intérêt, c'est peut-être très très mauvais. Donc c'est dur, c'est très exigeant et ça demande énormément, énormément de discipline.
Vous êtes rassurée ?
Là, je suis un peu rassurée, oui.
Non, mais le bouquin a été magnifiquement accueilli, ouais. Il a eu des prix, notamment le prix Renaudot de la jeunesse. Je ne dis pas de bêtises.
Ouais, Renaud des lycéens.
Donc, ouais. Des lycéens, ça veut dire que la suite va s'enclencher de manière naturelle.
Ah, je pense que l'Iconoclaste va publier mon deuxième. Ça, a priori, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et oui, les choses vont s'enclencher. Ça me met aussi en sécurité financièrement, ce qui est pas négligeable. Je vais pouvoir prendre du temps pour écrire, alors que le premier, j'ai dû l'écrire en continuant à bosser à côté, ouais, pour gagner ma vie. Et c'est vrai qu'il y a une confiance. C'est vrai que les gens disent que le deuxième, c'est le plus dur. Et moi, je le vis pas comme ça. Là, pour l'instant, je suis plutôt à me dire, j'ai aussi une armée de près de 200 000 personnes derrière moi qui me disent, on a adoré ce que tu as fait, vas-y, on est impatient de lire la suite. C'est quand même génial, quoi.
Une armée qui va encore grossir après avoir écouté cette émission, je l'espère.
On a beaucoup parlé de La vraie vie comme d'un roman post-MeToo. Est-ce que ça vous semble approprié?
Oui, complètement. Mais de nouveau, c'était pas du tout une volonté au moment de l'écrire, mais je pense que ça a infusé, parce que j'ai fait toute la période de réécriture accourue entre septembre et décembre 2017. Donc on était en plein MeToo. Après, je crois aussi que je l'ai écrit de mon point de vue de fille, enfin de femme, mais aussi de jeune fille, parce que pour me replonger dans les sensations d'une gamine de 10 ans, je me suis aussi beaucoup replongée dans mes propres sensations à l'époque. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties très naturellement, sans même réfléchir, mais quand la gamine dit à un moment son père lui dit qu'un garçon vaut mieux qu'une fille et que elle acceptait cette idée sans réfléchir, comme une évidence, et qu'il y avait des domaines auxquels elle n'avait pas accès. Bah ça, je me suis même pas rendu compte du tragique de ce que ça racontait. Au moment où je l'ai écrit très sincèrement parce que moi, c'est ce que j'avais intégré en tant que fille, que oui, c'est mieux d'avoir un garçon que d'avoir une fille, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu. Et que oui, pour mes frères, il y avait des choses qui étaient autorisées, qui n'étaient pas autorisées pour moi. Et donc, donc ça a été dit sans aucune volonté féministe. Après, c'est vrai que mis en lumière, c'est effrayant, ouais.
Adeline Dieudonné, La vraie vie, c'est un livre épatant, chaudement recommandé par cette émission. Ne bougez pas Adeline, on n'en a pas fini avec vous. Vous savez faire plein de choses, mais est-ce que vous savez faire ça?
Ah, attendez, normalement je sais le faire.
Ah bah oui, elle sait le faire.
Très bien.
Bravo. Ah, c'est un très très beau pop, je serais flatté. Mais non, c'est juste pour lancer les pop news.
Oui, il se confirme que le plus beau casting série de l'année pourrait être celui de The Good Omens, une histoire de fin du monde signée et adaptée pour la télé par Neil Gaiman, l'auteur de Sandman. Alors que l'apocalypse est proche, un ange et un démon qui vivent sur Terre parmi les humains depuis longtemps font tout ce qu'ils peuvent pour échapper à la guerre à venir. Les deux sont interprétés par Michael Sheen et David Tennant, épaulés par John Hamm dans le rôle de l'archange Gabriel et Frances McDormand qui jouera tout simplement Dieu. On sait désormais qui aura la lourde tâche de prêter sa voix à Satan.
High functioning sociopath, with your number.
Benedict Cumberbatch et The Good Omen, ce sera le 31 mai sur Amazon Prime.
Un nouvel inédit posthume signé Tom Petty. But I did it for ce titre, c'est For Real, donc nouvel inédit posthume, mais c'est étrange, mais après sa disparition, quelques inédits avaient déjà fait leur apparition dans l'énorme coffret American Treasure. Mais For Real figurera dans The Best of Everything, nouvelle anthologie qui sortira demain.
Après l'énorme carton de l'épisode Breath of the Wild et 26 ans après la sortie de la version originale sur Game Boy, Nintendo annonce le retour en 3D d'un jeu merveilleux de la galaxie Zelda, Link's Awakening, dont vous entendez quelques sons d'ambiance. Cette sortie est prévue courant 2019 sur Switch et on ne tient déjà plus Antoine Decaune.
Non !
On peut pas ? Antoine Decaune.
On ne me tient plus, lâchez-moi !
Non mais on vous trouvera le jeu, ne vous inquiétez pas, ça va aller.
Merci Charline. Avant d'accueillir celui qui a rendu le piano pop, Simon Gaïchi, écoutons un de ses morceaux avant d'en parler avec lui. Alfonsina y el mar. Vous venez d'écouter Simon Graichi qui interprète Alfonsina y Elmar, arrangé par ses soins et extrait de son album 33.
Pourquoi ?
Vous écoutez Pop Pop Pop.
Pourquoi cette voix, Antoine ?
L'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes toujours en compagnie d'Aline Dieudonné et vient de nous rejoindre, justement, Simon Graichi. Bonjour Simon.
Bonjour, j'ai eu peur.
Adeline, Simon, Adeline.
Enchanté.
Adeline. La chaîne américaine NBC News vous voit comme un musicien de classe mondiale, je cite, et le quotidien latino-américain La Repubblica dit de vous que vous êtes la rockstar du piano.
Ah là là.
Rockstar du piano, ça vous irrite ou ça vous fait sourire ?
Tout un programme, en tout cas. Non, ça me fait sourire, ça me fait, ça mérite pas du tout. Au contraire, je trouve que chacun a le loisir de dire ce qu'il veut. Après, moi, je suis un musicien classique et je militerai jusqu'au dernier souffle devant le piano pour, voilà, pour transmettre et diffuser la musique classique, le répertoire classique.
Classique après, et contemporaine.
Et classique savant. Oui. Dans le sens savant, mais il se trouve que je mesure 2 mètres, j'ai une grosse chevelure, je m'habille de façon peut-être un petit peu non conventionnelle par rapport au milieu classique. Donc si c'est ça, une rockstar, pourquoi pas, mais en tout cas, je ne me suis pas travesti pour tout ça, c'est moi-même. Mm-hmm. J'ai été moi-même et ils l'ont qualifié de rockstar.
Sur scène, costume aux couleurs flashy, des baskets à paillettes que j'ai du mal à voir parce que vous, elles sont cachées par une touffe de cheveux bruns bouclés qui rappelle ceux de Jon Snow de Game of Thrones ou Dominique Rocheteau, hein, pour nos auditeurs qui n'ont pas Netflix. C'est ce look aussi qui a participé donc à votre à ce surnom. Enfin,
mais peut-être. En tout cas, ce look, ça a toujours été le mien. C'est pas, ça n'a pas été une décision. Un matin où je me suis réveillé, je me suis regardé dans la glace. Je me suis dit, ah là là, ça va pas du tout, il faudrait que je me relook. J'ai toujours été comme ça et j'ai toujours eu un petit peu l'envie de me mettre en scène. Quand j'étais gamin, je voulais porter des chaussures dépareillées et ça s'est limité aux chaussettes parce que ma mère a pété un câble. Donc j'ai toujours voulu, ça fait partie de moi. Donc quand j'ai assumé tout ça, ils ont considéré que c'était peut-être plus des marques de rockstar que des marques de pianistes classiques en pingouin, ce que j'appelle pingouin.
Voilà, c'est, donc, Simon Graichi, c'est aussi en réaction à la tenue au stade. Très classique,
parce qu'elle ne me convient tout simplement
pas. Des grands pianistes,
oui, c'est ça. Je ne m'aime pas dedans, donc j'ai envie de m'aimer sur scène et de me trouver beau. Voilà.
De même, quand on parle de vous comme du, je cite, pianiste qui secoue le classique, est-ce bien raisonnable le classique ? La musique, j'entends, a-t-elle vraiment besoin d'être secouée selon vous ?
Pas du tout. Elle avait besoin ni de moi ni de personne pour être secouée. Et ce qu'il faut secouer, c'est les nouveaux publics pour leur donner envie à venir écouter du classique. Et moi, dans ma démarche, c'est, je pars toujours du principe que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de concert, qui n'a jamais écouté un album classique, va peut-être passer devant une affiche ou devant un post Facebook ou une petite vidéo faite à l'iPhone. Et il va me voir, il va voir ce que je fais, il va peut-être avoir envie d'écouter 30 secondes, 33 secondes de classique, puis une demi-heure, et puis un concert entier. Et c'est comme ça qu'on gagne de nouveaux publics.
Justement, à propos d'affiches, à l'époque de votre premier album Héritage, vous aviez tapissé les murs de Paris avec votre photo, accompagnée du slogan « Ceci n'est pas un pianiste ». Ça me rappelle une belle jury, ça. elle vous inspire donc, cette pop culture ?
Ah mais oui. Oui, elle m'inspire beaucoup parce que justement, la pop culture pour moi, c'est l'émotion instantanée. Mmh. Et le savant, la culture savante, c'est l'émotion préparée, anticipée peut-être. Et l'idéal, c'est de marier les deux. C'est de marier l'instantané avec l'anticipé, le préparé. Et c'est toute ma démarche, en fait, dans ce que je fais. Et notamment, Héritage, ça a été le fruit de cette démarche, parce que c'était autour des compositeurs latino-américains, hispaniques. Et ce qui est fascinant chez ces compositeurs, qu'on connaît beaucoup moins en Europe, parce qu'ils n'ont juste pas eu la chance d'être nés en Europe, ils ont été, ils viennent de très loin. Ce qui me fascine chez eux, c'est justement le mariage entre cultures populaires de l'Amérique latine, de Cuba, de Rio, de Mexico, mais avec les harmonies savantes, les harmonies qu'on retrouve chez Debussy, chez Ravel, chez Albéniz, chez Beethoven même, chez Schumann. Donc c'est ce mariage-là qui m'intéresse et qui est toute la base de mon travail.
J'ai envie de poser une question à Aline, d'ailleurs, parce que vous faites bien le distinguo entre la musique savante et la musique qui ne le serait pas. Est-ce que vous, écrivain, vous faites cette différence entre une littérature savante et une littérature plus populaire ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, la littérature... Déjà, je ne sais pas ce que c'est, la littérature. J'ai pas de définition précise. Parfois, j'entends des gens dire « c'est de la littérature, ça n'est pas de la littérature enfin, ». Et notamment des critiques, parfois, qui peuvent... Moi, je fais aucune distinction. À partir du moment où ça procure un plaisir et une émotion à des lecteurs, c'est de la littérature. Et non, j'ai aucune distinction.
On pourrait dire la même chose de la musique.
Oui et non, parce que la musique savante, pour moi, ça représente justement la musique qu'il faut préparer avant d'écouter ou qu'il faut préparer avant de jouer. C'est pas la musique instantanée. Quand on écoute du Beethoven ou quand on joue du Beethoven, il faut un minimum de remise en place à la fois historique, conceptuelle, harmonique, pour pouvoir rentrer dedans. Ce n'est pas de la musique qu'on écoute en fond le matin en prenant son petit-déj ou en buvant un coup avec les copains. La culture pop, et la musique pop en particulier, c'est une musique à laquelle on peut réagir sur une émotion instantanée sans aucune préparation, parce qu'elle nous touche ou parce qu'elle ne nous touche pas. Parfois, ça peut être aussi une réaction inverse. On peut ne pas être touché, mais en tout cas, ça provoque une émotion instantanée. Et dans le répertoire que j'ai la chance de jouer, et effectivement, il y a ce mariage entre les deux, dans le sens où on n'est pas obligé toujours de préparer ou de se mettre en condition, mais on peut tout à fait se laisser aller sur une émotion du moment.
Simon Greishi, l'album s'appelle 33. Est-ce qu'on doit y voir une forme de similitude avec ce qu'avait fait Adèle ? Ça va donner son âge sur chaque album. Peut-être c'est le moyen de convoquer d'énormes ventes.
En tout cas, ce n'est pas le 33e.
Non.
C'est juste le 4e.
Alors pourquoi 33 ?
33, c'est mon âge.
Ouais, comme Adèle.
Mais 33, c'est surtout, en fait, une introspection. C'est le fruit de 2 ans d'introspection, justement, après tout ce parcours, ce voyage coloré en terre latine, exotique, hispanique, dans le 3e album qui était Héritage. On m'a lancé un défi en me disant, Simon Greishi, on vous a connu sous toutes vos nationalités, mais on ne sait absolument pas de ce qu'il y a dedans. Vous ne vous dévoilez pas, on ne sait rien sur vous. Et ça a été le moment aussi où je découvrais une œuvre majeure du répertoire, l'humoresque de Robert Schumann, qui est dans mon album, et où dans le 2e mouvement de cette humoresque, Robert Schumann, complètement fou, en plus des partitions de la main droite et de la main gauche habituelles, il rajoute une 3e ligne avec une mélodie toute simple qu'il appelle la voix intérieure, die innere Stimme en allemand. Et c'est une mélodie qu'il demande au pianiste de ne pas jouer, mais de chanter dans sa voix intérieure. J'ai pris ça comme une sorte de message, une indication qui pousse à l'introspection. Et ça a été l'œuvre principale de mon album, qui a invité en moi toutes sortes d'introspections, toutes sortes de voix intérieures, parce qu'on n'en a pas qu'une seule. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux que de donner à mon album, fruit de cette introspection, que l'âge à laquelle elle a été faite.
Mais dans 33, on trouve énormément de choses, du romantisme allemand avec Schumann, dont vous parliez à l'instant, mais on retrouve 2 pièces, des œuvres contemporaines de Philippe Glass, ou encore le polonais Paweł Szymanski, que le grand public connaît moins. Écoutons un extrait. C'est la première étude de Paweł Szymanski, c'est extrait de 33, l'album de Simon Greishi, notre invité aujourd'hui. Je vais vous faire une confidence, Simon, j'ai écouté votre album en boucle tout le week-end, et particulièrement cette étude qui m'a rendu littéralement cinglé avec ses ruptures rythmiques, que je dirais, alors je dis peut-être une bêtise, mais entre Handel et Thelonious Monk, comment est-ce qu'on aborde un morceau aussi complexe que ça?
Je suis ravi de ce que vous me dites, parce que moi aussi ça m'a fait faire des crises d'impuissance devant le piano, et ça m'a rendu complètement cinglé pour l'apprendre, et encore plus pour l'apprendre par cœur. C'est un langage assez absurde, un mélange de baroque et de néo-tonal, de néo-classique en quelque sorte. En fait, c'est une musique à 5 temps. Donc, pour moi, cette œuvre, les 2 études, représentent une sorte d'horloge qui est en train de se dérégler. Et là, à un moment donné, elle nous saute à la figure, et c'est là où commence la 2e étude, où on a l'impression que le temps, qu'on est absorbé par un trou noir.
Quand on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, Simon, j'ai eu plusieurs messages de popopiennes et de popopiens me demandant si vous étiez célibataire, mais je connais la réponse. Vous êtes marié à votre piano.
Absolument.
C'était sympa la Saint-Valentin ?
Ah, c'est le compagnon idéal.
Parce que vous caressez votre piano, enfin vous caressez en tous les cas ce petit objet que vous avez sous la main.
Un cube avec un détecteur placé au-dessus, et c'est un détecteur de caresses. Donc je le caresse et il déclenche des sons, des sonorités qui seront mixées en live à mes concerts pour créer des interludes électro entre des pièces classiques.
Bien, Simon Gréchy, 33, c'est votre nouvel album recommandé par Pop. Simon Gréchy, Adeline Dieudonné, on approche de la fin de l'émission. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle. Allez, j'y vais. Oh, le piano géant de Tom Hanks dans le film Big. Il est là, dans ma cave, là, posé devant moi. Et si j'appuie avec mon pied, là, ça donne quoi? Ça, c'est du gros son, hein. Et si je saute, tiens, disons ici. Pas mal. Donc, attends, parce que j'ai une partition de Mozart en tête. Ah, vous dirais-je, maman. Bon, allez, je me lance, faut juste que j'aille vers les notes les plus aiguës. Voilà, allez. Encore, je suis pas en basket, hein. Bon, allez, le temps que je récupère, écoutons un morceau de Gainsbourg. Tiens, comme X-Trip.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Des... Clip, crack,
des...
Bang,
des...
Bang,
et des...
Zip, shabam, pow, flop, wheel.
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait...
Vlam,
ça fait...
Splash,
et ça fait...
Stop,
ou bien...
Bang,
ou parfois même...
Zip, shabam, pow, flop, wheel.
Viens, petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
fang,
des
flop,
et des
zip, shabam, pow, plop, wheel.
Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait
whip,
quand on s'envole et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
plop,
et des
zip, shabam, pow, plop, wheel.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là,
crash,
pour te protéger.
Chac,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi.
Smack, shabam, pow, plop, whiz, shabam.
Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Comic Strip, c'était en 67. Et aujourd'hui, dans Pop, Adeline Dieudonné, Simon Gréchy, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser tous les deux en souvenir? Adeline.
Oula, qu'est-ce que je pourrais bien vous laisser en souvenir? J'ai vendu des sextoys, je pourrais vous laisser un sextoy, ça peut être...
Avec plaisir.
Voilà, ça a été un de mes métiers, donc...
Et c'est maintenant que vous le dites.
En particulier?
Allez, on va mettre un joli pot de lubrifiant.
Un joli pot de lubrifiant. Ça m'aidera avec certains invités. Et vous, Simon?
Je peux venir m'en servir aussi dans votre cas.
Vous voulez vous servir du lubrifiant, vous, d'accord.
Mais, en attendant, je vais être beaucoup moins original, mais toujours dans l'érotique. Je vais vous laisser mon détecteur de caresses.
Maintenant, je ne vais pas vous en priver pour votre concert.
Mais je vais vous en faire une copie.
D'accord.
Je vais vous faire une copie de mon détecteur de caresses et je vais aussi vous laisser un énorme sablier de 33 heures.
Waouh! 33 heures?
Ouais.
Très bien, je prends les deux. Merci infiniment. Merci Simon Gréchy. Je rappelle que votre album 33 est disponible. J'en profite pour annoncer que vous êtes en concert en France, en Europe et en Asie du Sud jusqu'au 26 août. Les dates sont toutes à retrouver sur la page de l'émission franceinter.fr. Merci Adeline Dieudonné. La vraie vie, votre premier livre, est édité aux éditions de l'Iconoclaste. Et vous l'aurez compris, tout ça est plus que recommandé par Pop. Merci d'ailleurs à l'équipe de Pop. C'est Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Philippe Duclos, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, Flock, le légendaire illustrateur, sera avec nous et notre chroniqueur Loïc Prigent viendra nous faire un point pop sur la Fashion Week. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit une modeuse à la fin de ses tutos contouring sur YouTube.
Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, vous abonner à mon Instagram qui va s'afficher juste ici. Il y a également mon Twitter et mon Snapchat.
Oui, bon, ça va, merci, on a compris. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.